Vous entrez dans les ateliers de la nuit. Esprit de suite. L'atelier du son reprend ce soir un exercice déjà entendu il y a un an. Il y a un an, Thomas Baumgartner proposait à Andy Hemmler d'improviser au piano sur des ambiances sonores, c'est-à-dire des bandes-sons, des bruits de rue, des bruits mécaniques, des voix au loin. Il allait chercher le dialogue entre le son quotidien, celui de la ville, de nos déplacements, de nos cafés, de nos errances, avec les notes à portée de doigt. Tout est musique. C'est une formule, mais dès que l'on joue avec les sons, cela devient réalité. Tout est musique. Alors créons des dialogues, créons des duos entre l'instrument et les sons, entre le corps et l'instrument, puisque quand la pianiste est debout, penchée, c'est un corps à corps, et ça n'a rien à voir, c'est bien plus que jouer au piano. Ce soir, c'est Sophie Agnel, pianiste improvisatrice, à qui Thomas Baumgartner a demandé de se prêter au jeu en studio.
Bonsoir à vous, bienvenue dans l'atelier du son. Et d'abord, désolé pour la voix, c'est la faute à la saison. Tout à l'heure, nous serons avec le metteur en scène Mathieu Boer qui propose au Nouveau Théâtre de Montreuil, à côté de Paris, The Haunting Melody, la mélodie fantôme, une pièce de théâtre très sonore qui s'inspire des écrits du philosophe Peter Zendi, philosophe du son, entre autres. On en parle donc tout à l'heure avec Mathieu Boer. Mais avant ça, effectivement, c'est le temps de l'improvisation. L'idée de départ était venue de la mise en place des pianos dans les gares, les pianos à disposition qu'on trouve un peu partout. Maintenant, mais on s'était figuré à l'époque un pianiste dialoguant avec les trains arrivant, les trains démarrant, tout ça se mélangeant dans l'écho des halls de gare, et on s'était dit qu'on allait recréer ça en faisant en sorte de s'échapper des gares pour faire voyager le piano et son improvisation. On a fait ça l'année dernière avec le pianiste Andy Hemmler. L'exercice méritait qu'on y revienne, qu'on le décline, et c'est ce qu'on fait ce soir avec vous, Sophie Agnel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes pianiste, improvisatrice. Il y a une sorte de règle du jeu dans cet exercice, c'est que vous ne connaissez pas les ambiances, les bruits, les choses qu'on va partager avec vous, qu'on est allé chercher dans des enregistrements à droite à gauche, dans la banque de sons de Radio France, riche et sans fin. Et on vous les propose, on va vous les proposer. Vous êtes assise là en face du piano. Mmh. Alors vous l'avez préparé ce piano, c'est comme ça qu'on dit ?
On peut dire comme ça, mais je ne l'ai pas préparé. J'ai posé des objets sur... j'ai pas préparé comme le préparait John Cage ou le font d'autres musiciens maintenant, mais j'ai tout un attirail d'objets que je pose ça pourrait être sur une table, sur les endroits où ça sonne pas vers moi. Et puis au fur et à mesure que je joue, je les déplace, je m'en sers ou pas, mm-hmm. au fur et à mesure. Mais l'instrument est pas préparé à l'avance. C'est-à-dire que si je joue du clavier maintenant, ça va sonner comme un
piano.
Piano sans préparation.
Sans préparation. Préparer un piano, ça veut dire modifier en fait l'acoustique, la production sonore en y intégrant dans un piano qui n'est pas un piano droit, qui est un piano à queue, vous y intégrez des...
Oui, entre les cordes, des choses,
des objets
qui vont altérer le son initial. Voilà.
Alors j'ai vu des sortes de... C'est quoi? Des boules, des sphères, il y a des petites cymbales.
Oui.
Vous le dites ça ou pas, ce que vous mettez à l'intérieur?
Bon, je l'ai déjà dit, oui, je peux leur... ça se voit pas là, à la radio, mais j'ai des bouts de plastique, de bois, de pierre, de pâte à fixe, de boîte à sardines, de maillotches, de percussionnistes, morceaux de liège, des choses comme ça.
Alors ce soir, dans l'atelier du son, un dialogue entre le piano de Sophie Agnel et des sons proposés, des sons suggérés, pour que 1 plus 1 égale 3, comme on dit. Donc, mmh. On va commencer. Voilà, le premier son.
Thank you.
Un jeu d'échange entre cette ambiance de café et ces joueurs de flipper et votre piano, Sophie Agnel, pour ouvrir notre jeu radiophonique de ce soir. Ça va ?
C'était pas facile.
Comment ça se passe d'ailleurs au moment où vous entendez le son ? Il faut réagir quand même.
Au début, j'ai rien compris parce que j'avais trop d'informations et puis j'entendais pas assez fort mon piano d'ailleurs. C'était très 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 bavard et donc c'est comme c'était une surprise, ça fait beaucoup de choses entre le ressenti, ce qu'on essaye de faire en improvisant comme ça, puis en même temps essayer de réfléchir quand même parce que sinon ça marche pas. Enfin, et ce qui est difficile là, en tout cas, ce qui me paraît dur, c'est d'essayer de construire parce que j'improvise, mais quand j'improvise, je suis dans un temps quand même, avec un début, un milieu, une fin. Je ne sais jamais forcément où je vais, mais il y a quelque chose de...
Il y a une structure, quoi. Vous cherchez une structure.
Enfin, je ne cherche pas une structure. Elle se fait au fur et à mesure. Mais déjà, là, je ne savais pas si j'allais jouer 10 secondes ou 10 minutes. Donc ça, c'est un exercice vraiment difficile. Et parce qu'on ne démarre pas de la même façon. Enfin, on n'est pas...
C'est pas la même densité.
C'est pas la même énergie, ou je sais pas comment dire. On n'a pas les mêmes choses dans la tête.
Vous voulez que je vous dise combien de temps dure le prochain ?
Non.
Non ?
c'est pas évident, parce que moi j'improvise, et puis le deuxième pas du tout.
Oui, c'est vrai que c'est pas à proprement parler un duo.
Donc c'est
pas
un duo.
Vous savez ce que
c'est
qu'un duo, vous, Sophie Agnel, mais là effectivement, l'enregistrement, la bande-son, les bandes-son choisies ne changeront pas en fonction de votre jeu à vous.
Non, c'est à moi de m'adapter. Je peux pas me bagarrer, quoi, en tout cas, avec ce qu'on m'envoie. J'ai juste à essayer d'être forte toute seule.
On continue ?
Allez.
Thank you.
C'est comme si vous l'aviez, vous aviez senti là-bas, c'est venu petit à petit. Hein. Vous avez senti l'événement arriver.
Non, j'ai pas senti, mais j'ai voulu me montrer que tout était possible en fait. Enfin, tout n'est pas vraiment. On peut pas faire n'importe quoi, c'est pas ça. Mais enfin, j'ai commencé avant.
Oui.
Exprès, mais. Si on tient fortement quelque chose, une idée, et qu'on y va, laissons se rencontre.
Mais il fallait prendre un peu l'avantage aussi en commençant plus tôt. C'était une manière de prendre l'avantage sur l'ambiance.
Non, c'était pas prendre l'avantage. C'était ce que je viens de dire. C'était tenir moi aussi, faire ma bande à moi. Voilà.
Mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au moment d'un vrai duo. Vous faites beaucoup de duos, vous travaillez avec Alessandro Bossetti, Eric M, vous avez travaillé avec des gens comme ça, Hélène Bréchamp, en plus des gens qui viennent d'horizons très différents.
Oui, avec...
Là, il s'agit quoi d'une adaptation l'un à l'autre, comment ça se passe?
C'est-à-dire que c'est vraiment de l'écoute, quoi. Ouais. Donc, y a les sons qui, de toute façon, sont dans l'air et qui ont leur autonomie et leur vie et qui n'ont presque pas besoin de nous. Moi, il y a des moments avec les gens que je connais bien, ou des duos ou trios, quartet, n'importe qui fonctionne de façon assez évidente. J'ai juste l'impression de prêter mes bras à l'espace-temps qu'il y a là et être juste une machine qui envoie des choses et que de toute façon, la musique se fait toute seule. Mais en tout cas, un duo même avec quelqu'un qui fait de la musique électronique, électroacoustique ou... parce que j'ai joué avec pas mal de gens qui font ça, c'est...
Jérôme Nottinger.
Oui, aussi, Lionel Marchetti. Tout ça, c'est des vrais échanges, quoi. Et puis on est dans le même temps, dans le même espace et dans le même temps. Vraiment, même si on a un qui a de l'électricité, des micros, des haut-parleurs et l'autre pas, on est dans la même pièce et puis on sait qu'à la fin du concert, on va terminer, quoi. Ensemble, en général, on termine ensemble.
Ouais. Ici aussi, on a de l'électricité. Voilà, on continue. On continue dans l'atelier du son, ce dialogue entre les sons proposés et votre piano, Sophie Agnel.
Thank you.
Vous écoutez l'Atelier du son sur France Culture ce soir. On propose à la pianiste et improvisatrice Sophie Agniel de se plonger dans les sons qu'on lui met dans l'oreille et de dialoguer avec eux, ou les accompagner en tout cas, de jouer en même temps que ces sons-là. À l'instant, donc, encore une fois, un train. Les trains vont bien aux musiciens quand même, c'est des compagnons de chemin de fer, des compagnons de route. Mais là, voilà, vous avez pu... Vous plongez, on peut dire ça, dans cette ambiance, dans ce train en marche qui s'arrête et qui repart.
Bah là, oui, c'était plus classique, entre guillemets, pour moi. J'ai vraiment joué le jeu du... Je savais que c'était un train, et puis comme j'ai fait une espèce de voyage dans le train, quoi. Mmh. Voilà, comme ça, c'est magnifique, les sons des trains. J'adore ça. Mmh. Mais c'est pas facile de jouer... De jouer avec non plus, parce que c'est à la fois très très régulier, c'est très connu, c'est quelque chose qu'on a au fond de nous, comme ça, que tout le monde connaît bien.
Mais ça charrie un imaginaire fort.
Ouais. On est obligé de reconnaître que c'est un train. C'est ça qui est difficile pour moi, c'est que du coup il y a l'histoire et que le son est moins abstrait.
Donc, ouais, faut jouer avec la référence aussi.
Ben, du coup, ouais. Peut-être pas obligé, mais, mais là, c'est difficile de faire autrement. Ouais.
J'ai lu quelque part que vous disiez que maintenant, vous englobez le piano, dans le sens où entre la position classique, main sur le clavier, et puis la position surplombante, ce piano préparé dont vous jouez avec les cordes à l'intérieur du corps du piano, vous y insérez des objets, vous jouez avec ces objets-là. Il pouvait y avoir à une époque une frontière entre la position traditionnelle et la position de la joueuse de piano préparé, et qu'aujourd'hui, c'est plus simple, en fait.
Bah ça, c'est l'avantage de l'âge.
Oui, non, mais...
ça vient au bout d'un moment, quoi.
Au-delà de ça, ça veut dire fluidité.
Bah oui, c'est ça. C'est que le piano m'est devenu quand même petit à petit assez familier. Mm-hmm. Et puis que j'en ai moins peur. Et puis que j'arrive à le prendre, oui, comme ça, d'une façon globale. Avant, effectivement, il y avait le moment où j'étais assise et le moment où j'étais debout, et c'était ça. Maintenant, même si j'ai plein de moments assises et des moments debout, enfin, c'est naturel, mais ça, c'est des histoires de gestes aussi, qui deviennent naturelles, quoi, qui sont plus du tout techniques. Mmh.
Mmh. On continue l'écoute. On change d'univers. Oui, on change d'univers. À l'instant, c'est sur la rythmique fluctuante de crapaud calamite que vous avez joué, Sophie Agnel.
Je me doutais que c'était de cette famille-là.
Le crapaud calamite a un sac vocal interne qui lui donne une gorge bleue violacée lorsqu'il chante. Voilà, j'ai trouvé ça à propos du crapaud calamite, qui est un crapaud chanteur, et qui vous a donné, oui, comme un tapis rythmique quand même, non?
Bah oui, c'est ça, oui. Mais un tapis rythmique, mais c'est pareil que le train, quoi. C'est pas que un tapis rythmique, parce que c'est... Moi, j'arrêtais pas de penser à cette bête-là. Enfin, je savais pas que c'était un crapaud à gorge bleue. Donc, à un moment, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de faire pareil? Tu fais le crapaud? Enfin, je me disais, la grenouille, moi, mais...
Une dernière proposition, Sophie Agnel.
Oui.
Qui reste une proposition, on va dire, animale. Voilà.
Et elle est un peu longue ou très courte, celle-là ou...
Elle n'est ni très courte, ni très longue.
D'accord.
Marier de manière impromptue les sons du réel qu'on trouve ici dans les banques de sons de Radio France, dans certaines réserves sonores de Véronique Lamandour qui réalise l'émission, et ce, produit par une instrumentiste improvisatrice. De manière impromptue, c'est ce qu'on a voulu faire ce jeu radiophonique avec vous ce soir, Sophie Agnel, sur ce dernier attelage. C'est un attelage de chevaux,
oui,
évidemment.
Oui, j'avais entendu, oui. Ouais. Oui.
Et donc là, il s'agit de suivre le rythme, d'être dans la même dynamique.
Ben ça, c'est un peu malgré moi, je suis tombée dedans. Et puis après, j'ai eu envie de les écouter aussi, alors je me suis arrêtée de jouer. Parce que je ne les entends pas très bien quand même quand je joue, moins que quand je ne joue pas. Et puis après, j'ai essayé de chercher à être de faire un plan différent, d'être un peu ailleurs, je ne sais pas si... parce que le plus facile quand même c'est l'imitation,
ouais.
Mais bon, ça va
d'être dans l'écho,
ouais. Ouais, ça c'est le béaba des... enfin c'est le défaut même de certains débutants improvisateurs, mais bon, c'est aussi assez satisfaisant d'imiter quelque chose. L'enfant aime bien d'ailleurs,
mais c'est même comme ça qu'on commence,
c'est comme ça qu'on commence. Voilà. À un moment, j'ai dit non. Et puis j'ai essayé ailleurs, quoi, voir comment ça... Mais c'est difficile de faire des plans différents quand la trame continue, quoi. Parce que quand je joue avec des musiciens, du coup, il peut y avoir vraiment des plans... Oui, des couches et des plans très, très différents qui ouvrent l'espace. Là, c'est compliqué quand même. Hein.
Merci beaucoup Sophie Agnel de vous être prêtée à notre jeu impromptu ce soir dans l'atelier.
Merci à vous.
Et puis on peut signaler que vous serez le 7 mars, le samedi 7 mars au festival Présence électronique organisé par l'INA GRM comme chaque année. Et ça se passe au 104, la salle 104, le 104 à Paris.
À Paris.
Et vous serez en compagnie de Wilfried Wendling qui s'occupera de la diffusion.
Ce
sera sa partie, la spatialisation du son qui sortira de votre instrument. Merci beaucoup encore une fois.
Merci à vous.
L'atelier du son sur France Culture. C'est l'heure de la chronique sur nos deux oreilles, Thomas Baumgartner.
Quand j'ai fait le Pop Club, il y avait une chaîne de télé, une seule, qui terminait à 10h du soir, et moi je commençais à 10h. Et donc aujourd'hui, c'était la plateforme où fallait passer. Tandis qu'aujourd'hui, les gens qui font mon horaire, par exemple, sur toutes les chaînes, il n'y a plus qu'une chose qui intéresse les cabots, entre guillemets, c'est la télé. Être vu, ils préfèrent aller dans une émission de cons de 20h30 à la honte de la France, mais parce qu'ils sont vus et que la radio, c'est, maintenant, c'est réservé à ceux qui avaient prennent le temps de parler un petit peu, parce qu'à la télé, c'est hallucinant. On vous fait venir un type intéressant et on lui donne 3 minutes et puis on passe derrière parce qu'il y a, Amanda Lear qui va sourire et qui va danser un truc avec Orlando.
On n'avait dit pas de nom ce soir.
Comment ?
On n'avait dit pas de nom ce soir.
Ah si, on va balancer. Ça, au contraire, on va balancer alors.
La parole devenue libre, mais a-t-elle jamais été réellement bridée, cette parole? C'est celle de José Arthur, évidemment, recueillie en public lors d'une émission qu'on avait faite au Festival Longueur d'onde de Brest en 2009. Il aimait bien être en public, José Arthur. José Arthur est mort samedi matin dernier aux trousses de ses amis Cabu et Wolinski, dont il décrivait les dessins de Charlie Hebdo et du Canard Enchaîné dans son Pop Club sur France Inter. Il le faisait le mardi soir, veille du jour de parution des deux Hebdo. Tellement de choses ont été dites depuis samedi sur les 40 ans de Pop Club entre 1965 et 2005. José Arthur avait l'élégance de faire croire qu'il parlait plus que ses invités, c'était parfois vrai. Il avait la culture pour, et la faconde évidemment. Il disait volontiers qu'il avait inventé l'interview monologue, mais c'était pour mieux dissimuler le travailleur qu'il était, touchant à l'endroit juste, posant la bonne question, sachant mettre en écho ses invités les uns avec les autres autour de sa table du Fouquet's, d'où était diffusée souvent l'émission. Le meilleur intervieweur de France, avait écrit Romain Gary en lui dédicaçant La nuit sera calme, son livre, qui pourtant, Romain Gary savait avoir la dent dure. Il avait transformé son trac de comédien débutant en professionnalisme de producteur de radio. La convivialité était l'autre politesse de José Arthur, mettant l'auditeur à sa table, réussissant à lui donner l'impression que le tout Paris était dans son salon ou dans sa chambre à coucher. Il n'était pas question de distinction sociale ou de caste culturelle. Arthur, José Arthur, l'ami de François Perrier, d'Yves Montand, de Simone Signoret, était un enfant de la guerre et des cabarets, pas un héritier. Il ne l'avait pas oublié. Il était le premier à dire qu'il ne suivait pas lui-même les conseils qu'il donnait aux débutants. C'était pour mieux faire rire et qu'on ne remarque pas qu'effectivement, il donnait des conseils aux débutants, qu'il mettait le pied à l'étrier, léger au dehors, concentré au dedans, élégant. Merci, José Arthur.
L'écoute, c'est un petit peu ça la thèse, ou enfin l'idée centrale que j'essaye de développer, d'argumenter, et puis surtout de montrer à l'œuvre dans des situations concrètes d'écoute. L'écoute ne se passe jamais entre deux pôles, je dirais, comme on l'imagine souvent, par ailleurs. On s'imagine souvent que, à cause de toute une histoire de l'écoute qui nous a amené à le penser, on s'imagine que l'écoute, c'est un sujet passif, qui a les oreilles grandes ouvertes, qui est tout ouïe, comme on dit, et qui reçoit, la musique, un discours, une conférence, une pièce de théâtre, ce qu'on veut. Ce que je dis, c'est tout simple, c'est que pour vraiment penser ce qui se passe dans l'écoute, il faut ouvrir cette ligne droite, c'est-à-dire ce face-à-face entre un sujet et un objet d'écoute, il faut l'ouvrir et la trianguler, en quelque sorte, c'est-à-dire il faut y ouvrir un angle, que l'écoute, elle est aussi, bien sûr, elle est attention à l'objet sonore, mais elle est aussi toujours adresse à un autre. Donc ce que j'entends, je ne l'entends que parce que je suis déjà en train de l'adresser à un autre. Voilà.
Un extrait de la bande originale de l'excellentissime film Whiplash de Damien Chazelle, l'histoire d'un jeune batteur new-yorkais tyrannisé par son professeur. Ça, c'était la musique. Et puis, il y avait la voix. C'était la voix du philosophe Peter Zendi, dans l'atelier du son il y a un peu plus de 2 ans, qui parlait d'écoute et de partage, qui parlait d'écoute et de patrimoine commun. Voilà des choses qu'on retrouve dans une pièce qu'on peut aller voir au nouveau théâtre de Montreuil, juste à côté de Paris, The Haunting Melody, la mélodie fantôme. C'est jusqu'au 14 février. C'est
14 bien ça. Février, ouais, c'est
Mathieu
ça.
Bauer, c'est vous qui mettez en scène, qui proposez cette mélodie fantôme, et vous jouez aussi d'ailleurs, et vous êtes à la batterie d'ailleurs dans cette pièce.
Ouais, j'ai eu un professeur un peu tyrannique comme début.
C'est vrai ?
Ouais. Monsieur Batigne.
On le salue donc au passage. Donc, The Haunting Melody, une pièce qui veut nous faire voir l'invisible, qui cherche ce qui se trouve dans le pli de nos écoutes, dans ce qu'on écoute et ce qui fait la bande-son de nos vies. Voilà, et on se retrouve dans un studio d'enregistrement. La situation, c'est ça, un studio d'enregistrement, comme ce soir, en fait, Mathieu Bauer. Il y a 6 personnages, plutôt frappés, si on peut dire. Voilà, en tout cas...
Ou en couleur, on va dire.
Ou en couleur. ils sont réunis là pour enregistrer la bande-son d'un film d'horreur. Et il y a du son dans le studio, mais il y a aussi du son dans les têtes. C'est tout là le propos. Et vous donc, vous figurez le réalisateur, en fait, de ce film d'horreur. On va vous diriger l'enregistrement de la bande-son. C'est venu comment, cette idée ? Parce que un des points de départ, alors vous allez me confirmer ça, mais un des points de départ, justement, c'est le propos de ce philosophe, de Peter Zendi, qui fait partie de ceux qui pensent, justement, le son, l'écoute, à la fois dans l'histoire et puis, évidemment, dans le présent. Et on retrouve, j'allais dire, presque la voix de Peter Zendi sur scène par moment.
Bah, oui, on peut lui rendre hommage parce que c'est... C'est quelqu'un d'une clairvoyance, d'une intelligence, et puis en plus quelqu'un qui s'aventure, c'est-à-dire qui ne reste pas uniquement dans un espace qu'il connaît très bien ou un territoire qu'il connaît très bien, mais qui va regarder comment ça se passe du côté du cinéma, comment ça se passe du côté de la psychanalyse, en parlant d'écoute, hein, j'entends. Mais j'entends, c'est rigolo, en parlant d'écoute, j'entends, ça y est, ça commence.
Bref, il parle aussi de OVNI de temps en temps, d'extraterrestres, il parle de ponctuation, ça c'est ces sujets-là.
Ça c'est d'autres sujets qu'il a abordés, je connais un peu moins bien, il a écrit Écoute, une histoire, une archéologie de nos oreilles, il a écrit un petit bouquin, moi c'est le premier que j'ai lu, qui m'avait enchanté, en plus parce qu'il traite de la musique populaire et que... Je suis aussi un grand fanatique de la musique populaire, ouais. Depuis le début du siècle jusqu'à maintenant, et comment elle a évolué à travers ce siècle qui a été absolument incroyable pour cette musique-là, avec l'arrivée du phonin, de la phonographie, de la répétition, l'enregistrement,
la
reproduction mécanique, Benjamin et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui nous entraîne sur des territoires qui sont absolument magnifiques, qui s'amuse avec les sujets qu'il aborde aussi, il faut bien le dire. Il s'amuse à un moment donné, par exemple, à faire 5 pages d'analyse sur parole comme étant la quintessence du tube.
Oui, la chanson d'Alain Delon.
La chanson dans la chanson, le parler qui se confronte au chanter, qui va avoir le dernier mot. Mais est-ce que c'est pas ça un tube finalement ? La ritournelle contre la parole, la raison contre la déraison, etc., etc. Donc,
et vous amusez aussi d'ailleurs avec parole dans la pièce. Kate Strong avec Mathias
Girbig. Cette histoire d'amour banal qui est souvent le point de départ d'un tube ou d'une ritournelle ou d'une petite histoire et qui à un moment donné peut nous peut venir nous hanter. Donc voilà, le point de départ, c'est vraiment Peter Zandi. Et puis après, il y a effectivement un contexte. Il me fallait un contexte d'une certaine façon. Je cherchais en tout cas un contexte pour, de façon un peu plus générale, pouvoir aborder des questions musicales, des questions de travail avec l'image, des questions de doublage, puis de la musique, hein, puisque étant musicien de formation, on va dire ça comme ça, même si mes deux amours ont été très très vite réunis sur un plateau de théâtre, le cinéma d'une certaine façon et la musique, finalement c'est le théâtre qui les a réunis et c'est à cet endroit-là où j'ai commencé à construire à partir de tous ces éléments-là. Donc a jailli dans mon esprit l'histoire de ce film, cette bande-son de film d'horreur qu'il faut post-synchroniser, comme on dit, ou faut refaire une bande-son. Mais c'est vraiment un prétexte pour qu'après chaque personnage, les deux acteurs, une chanteuse, un ingénieur du son, un réalisateur en l'occurrence moi-même, et puis un compositeur, on puisse à un moment donné déballer tous les spectres, tous les fantômes qu'on a, enfin musicaux j'entends. Mm-hmm. Hein. Voilà, et puis de voir comment à un moment donné on peut partager ça avec le public sur des questions d'écoute. Et oui, effectivement, la fameuse triangulaire, quel point de vue on épouse. Mmh. Voilà. Est-ce qu'il y a un point de vue historique? Est-ce qu'il y a un point de vue intime? Est-ce qu'il y a un point de vue politique? Est-ce qu'il y a un point de vue... Enfin voilà, on pourrait les multiplier, mais il y a évidemment il y a un point de vue. Souvent, l'écoute est considérée comme un sens un peu passif. Il n'y a pas de paupières, on le sait, etc. On le subit de plus en plus. D'ailleurs, on le subit de plus en plus, il faut bien le dire. À ce sens-là, j'avais vachement aimé le film de Mathieu Amalric dans Tournée, parce que le personnage de Mathieu Amalric, à chaque fois qu'il arrivait dans un endroit, un bistrot, dans une station service, mais même dans les endroits les plus saugrenus, vous pouvez pas couper la musique s'il vous plaît, je vous en supplie. Donc c'est vrai qu'il y a aussi, on parle beaucoup de la liberté d'expression actuellement, et pour cause, et on a bien raison, mais sur notre liberté d'écouter, il y avait peut-être aussi quelque chose comme ça qui commençait un peu à me tarabiscoter. C'est pourquoi je suis obligé de subir systématiquement, plus tous les discours qu'on entend, et voilà. Et je sais pas, par extension maintenant, le rapport à la musique un peu plus contemplatif, et peut-être qu'il faut se taire aussi.
Oui. Mais non, mais la liberté d'écouter, c'est aussi la liberté d'écouter, s'écouter soi-même, s'écouter, écouter sa propre mythologie. Alors vous parliez des tubes, en faisant référence aux écrits de Peter Zandi, et ce livre Tube, ça aussi c'est à travers toute la pièce, puisque c'est la quête, il y a une quête dans la pièce, c'est la quête de cette mélodie fantôme. C'est le personnage qui est joué par Kate Strong, qui cherche cette chanson qu'elle a en tête, elle ne se souvient plus laquelle, mais elle est là.
Elle a un verre d'oreille, c'est ce qu'on appelle effectivement ces fameux verres d'oreille, enfin on les a traduits comme ça en français, qui est une
notion optique.
Je ne vais pas le dire bien en allemand, donc
c'est Ohrwurm.
Ohrwurm, voilà. Qu'on tient de Theodor Reck, qui était un élève de Freud, etc., et qui est le premier à en avoir parlé, effectivement, avec le camalaire, avec des mélodies qu'on oublie, pourquoi on les oublie, enfin comme. Voilà, comme les lapsus, etc., etc. Et effectivement, Kate cherche désespérément un air. Elle sait qu'il est là et elle n'arrive pas à le reconvoquer. Et en même temps, elle sait que cet air-là a cette qualité un peu banale, mais de renvoyer à une chose qui lui est chaleureuse, propre, intime, quelque chose qui est effectivement un accès à soi, de nouveau, et peut-être par extension une chose beaucoup plus, un moment de sa vie où c'est un peu plus compliqué, quelque chose comme un vieux manteau, s'envelopper comme un vieux manteau. C'est ce que disait Benjamin à propos d'une chanson populaire. Ça a ce mérite-là, c'est qu'on a l'impression de se réchauffer dans un vieux manteau en fourrure. Bon, elle cherche désespérément cette chanson. Elle a un acolyte qui est un acteur qui, lui, au contraire, est saturé de références, de chansons.
C'est
un jukebox humain.
D'ailleurs, une belle performance de Mathias Gabriel.
Ah oui. et puis l'échange, en plus, ce salopio aussi.
Ah oui, c'est vrai ?
Ah oui. Il y a des soirs où je me dis, ah non, pas celui-là, c'est pas possible. Comment il arrive à le sortir ? Alors, il les prépare à l'avance, mais c'est vrai qu'il a... une performance sur tout le spectacle, il doit chanter, mais de façon très rapide et très rapprochée.
Petits
zappings de 40-45 tubes que tout le monde connaît, etc. Et puis après, ça renvoie évidemment chacun à notre endroit, à notre propre... c'est les bandes-sons de notre vie, quoi. Mmh. Enfin, c'est des choses qui nous renvoient forcément à des premiers amours, un premier baiser, qui nous renvoient à tel été, à un événement politique, à un événement historique, une déception. Enfin, j'en passe et des meilleurs, mais on a tous une relation, particulièrement avec les tubes, une relation un peu intime qui s'est tissée au fur et à mesure des années.
Mathieu Bauer, la matière qui fait cette mélodie fantôme de Haunting Melody, donc on peut aller voir au Nouveau Théâtre de Montreuil, c'est une matière invisible, ça doit être assez agréable ou jouissif d'écrire ou de construire une pièce autour d'une matière finalement qui se transforme constamment, qui est constamment l'objet d'une quête en fait, qui est constamment invisible à aller chercher.
Alors, non, c'est ça, c'est dans la question, dans le sens du son, c'est-à-dire aller
le
chercher
son est invisible.
Le son est invisible. Oui, d'accord, oui, Gravity, quoi. C'est la fameuse interview de l'ingénieur du son qui dit bah, jour, ils sont arrivés avec le scénario, je me suis bien marré. Bon, ben voilà, il faut faire une bande son dans l'espace. Et il a dit a challenge. Oui, là, effectivement, il y a un vrai problème, puisqu'il n'y a plus de son.
Il n'y a plus de son dans l'espace.
Il n'y a plus de son dans l'espace. D'ailleurs, ils ont trouvé des stratagèmes vachement intéressants. Petite parenthèse, pardon, digression sur digression.
Non, mais la pièce, vous, elle se passe dans un studio d'enregistrement. Et là aussi, il y a plusieurs types de sons.
Il y a plein de sons différents. Ouais. On joue évidemment avec tous les rapports qu'on peut entretenir. Enfin, il y a une séquence d'ailleurs où on est presque dans le cinéma muet, puisqu'il y a une des actrices qui est dans une cabine d'enregistrement. Donc, moi, je suis censé l'entendre, mais à part ça, personne ne l'entend. Donc, effectivement, on joue sur les silences, des faux silences, des silences induits, des silences qui arrivent de façon totalement par hasard, de temps en temps, enfin, de façon volontaire, parce qu'on les a écrits, etc. Après, c'est en termes de montage, oui, c'est les montages. C'est montage entre.
Montage de texte.
Montage de texte, puisque ensuite, ça a été au même titre que Peter Zendi est un butineur et est un promeneur et qui va chercher un petit peu chez les autres aussi ce qu'ils ont pu penser, réfléchir et il va les prolonger. Moi j'aime bien procéder comme ça sur un plateau de théâtre.
Vous êtes allé chercher chez Barthes.
Il y a Barthes qui a écrit écoute, enfin quelque chose de, voilà, sur les typologies d'écoute. Il y a Adorno qui a écrit énormément sur nos écoutes et surtout sur notre rapport à la musique, pour être plus exact. Toutes les typologies d'écoute qu'il peut y avoir, on a tous une caractéristique. La typologie, le ressentiment, l'auditeur, enfin bon voilà, il y a toutes les typologies d'Adorno. Il y a Yankelevitch qui, à mon sens, moi, pour celui qui me touche le plus, parce que voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'ineffable, de l'inatteignable, etc., etc. Et puis il y a des choses que moi j'ai réécrit à partir de Cage, enfin les champignons, enfin tous les hasards de la vie, les bandes son de nos vies, enfin et puis voilà, te saisir à un moment donné comme ça, dans des, juste avoir la curiosité, tendre l'oreille, se laisser faire, être ouvert au monde, ouvrir les oreilles comme on est ouvert au monde. Voilà, ça c'est une des expressions de Cage que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'ai vu plein d'émissions où Cage, par exemple, comme lui, comment vous procédez, puis hop, il va à la fenêtre, il ouvre, il fait ben voilà, ça c'est la cinquième. Écoutez, bon, plus des émissions qu'on a vues à l'époque, voilà, à la fois d'une excentricité, d'une élégance incroyable, comme José Arthur, et à la fois d'une poésie qui me touche au plus profond. Donc il s'agissait de réunir tout ça sur un plateau, mais après ça c'est le montage, et ça c'est ce que j'aime profondément faire, à proprement parler, puisque j'ai jamais monté de texte de théâtre, enfin quelques-uns, mais vraiment à la marge, et plutôt sur la question du cinéma, sur la question de la critique, sur la question de Godard, sur la question d'Anne, beaucoup sur l'image, je me suis rendu compte. Et c'est vrai que...
Soudain, voilà le son.
Oui, c'était comme l'ami... et puis j'ai aimé énormément le cinéma par le son. Je pense que je préfère les bandes-son de Bresson que les films de Bresson, si je suis tout à fait honnête. Je préfère certains films de Godard pour les bandes-son. Je déteste L'état des choses de Wim Wenders pour la bande-son. C'est malheureusement pour lui. Mais je peux sortir d'un film à cause d'une certaine façon de sa bande-son.
Écoutons une bande-son, celle de la pièce de Haunting Melody. Un extrait de la pièce, je crois qu'on peut retrouver... Peut-être du Adorno, quoi qu'il en soit, Thomas Blanchard, Sylvain Cartini, Mathias Girbig, Pauline Sikirji, Kate Strong et vous, Mathieu Boer, c'est ça, c'est ces gens-là qu'on retrouve dans ce studio d'enregistrement qui est la scène de cette Medley Fantôme extrait. J'ai vécu une seule envie, me laisser tenter. All I ever wanted, all I ever needed is here. In my, on m'a trop donné, bien avant l'envie. She's up all night to the sun. I'm up to you really want to hurt me. Because I'm happy I'm alone. If you feel that happiness is just. Because I'm happy, copy me.
Mathias, qu'est-ce que tu demandes à la musique?
Je le sais.
Une légère griserie.
De
rythmer tes songeries. De bercer tes ruminations. Voilà. C'est une chanson à un succès canaline. C'est une musique d'ameublement, un mélodieux bruitage entendu au repas et aux conversations. Non, mais... Elle veut nous réduire au silence.
flétrir nos langages et nous rendre incapables de communiquer. Mathias, non mais on vous enfonce ces chansons dans la tête. Vous les aimez même pas, vous les reconnaissez. Vous êtes distrait par leur réminiscence.
Distrait?
Oui.
Oui,
oui.
Oui,
distrait. Oui, oui, oui.
Pourquoi? La distraction n'est pas aussi nécessaire. La musique étant perdue, même perdue, pensez bien.
Vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants. Voilà, vous êtes des enfants. Des auditeurs en pleine régression qui se comportent comme des enfants. Vous demandez toujours et avec une manière s'obstiner le même plat qu'on vous a déjà servi une fois.
La même soupe. C'est ça, justement. La même si tout ce qui tire reste à dire, attira simplement et inépuisablement à redire. Faut reprendre, contraire, répéter, réexposer encore et encore et encore.
Ici, listening. Écoutez encore et encore. Non, mais vous refusez tout ce qui est inhabituel. Ce sont les dissonances qui vous effraient. C'est pour ça que c'est insupportable. Vous parlez de répétition. Alors, on préfère écouter calmement, sans effort, d'une oreille, seulement. Mais non,
non, non,
mais non, non, il faut s'aventurer, quelqu'un. Il faut s'aventurer à écouter. Diriger son oreille vers. Être tendu vers des sens possibles, recevoir des impressions des sons, être frappé des sons. Le son bouge, sonne, résonne, rebondit, vibre, bouge. Une oreille tactile, une oreille qui tâtonne. Être à l'écoute, comme on dit, être au monde. Faut s'aventurer, dis Mathias.
Oui, alors c'est peut-être du Pierre Schaeffer, peut-être du Adorno.
Non, il y a du Adorno, ça c'est sûr, au début.
Peut-être
vous êtes
du Cage,
enfants.
Voilà. Ce que vous et disiez pendant qu'on entendait là, cette Matthew Weir, cette captation des répétitions. Alors vous disiez, ils sont plus mordants encore maintenant, les comédiens.
Tant mieux, mais parce que comme disait Muller, quand le théâtre manque de mordants, les dentistes sont dans la salle.
mais il faut dire aussi que, bon, certes, il n'y a pas de choueur, ces citations, mais les coutures ne se voient pas. On est là dans un spectacle de théâtre et il y a même la participation du public. Vous faites appel au public, on nous demande de donner les titres, éventuellement de chanter, enfin voilà, et c'est même utilisé à l'intérieur de la pièce. Voilà, on parle de tout un chacun, de nos écoutes, de nos bandes-sons, de nos vies. Il faut aussi signaler qu'à côté de la pièce de Haunting Melody, donc au Nouveau Théâtre de Montreuil, à côté de Paris, il y a des ateliers, il y a des cours, enfin je sais pas.
Il y a un très beau boulot qui a été fait par Benoît Artaud, qui a fait des ateliers, effectivement, d'écoute,
des
rencontres, et qui, à partir de ça, a fait une installation dans le hall du théâtre. En plus, on a trouvé des écoles qui nous ont accompagnés sur cette histoire-là. Donc,
demain, il y a à 14h un atelier bande-son avec Mathias Girbig, un des comédiens de la troupe. Dimanche, à 14h, il y a un spectacle. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent autour du spectacle lui-même. Un atelier d'écriture de chansons le 7 février, donc samedi dans une semaine. Il y a toute une activité autour de ça. Le son, ça fait parler. Le son, ça donne envie. Le son, c'est pour tout le monde. Et cette pièce en particulier. Donc, c'est jusqu'au 14 février, c'est ça?
Juste pour finir, si j'ai encore deux minutes. Enfin voilà, c'est vrai que c'était pour moi très important de rentrer par le sensible d'abord, plus que par le théorique, et que la porte d'entrée était systématiquement pour moi de jamais venir illustrer un propos, grosso modo avec tel ou tel type de musique qui viendrait mettre en exergue tel ou tel penseur, mais bien au contraire commencer par l'expérience sensible dans le spectacle, et suite à l'expérience sensible qui est liée à la musique, liée à un son, liée à un rapport, etc., de voir comment on peut déplacer notre première écoute avec effectivement au fur et à mesure, en entassant les différentes perspectives qu'on propose, et faire participer le public dans la mesure où j'avais envie de cette interaction, à un moment donné, de se questionner ensemble. Voilà, et puis c'est le moment où il y a une vraie, peut-être quelque chose qui est de l'ordre du passé, alors que le spectacle est au présent, et c'est le seul moment où on se permet en instantané, d'une certaine façon, de passer effectivement sur une sorte de nostalgie, puisqu'on les a entendus avant, on les réécoute après.
Voilà, on enregistre le public, et un peu plus tard, quelques minutes plus tard, on entend ce que vous avez enregistré dans la salle. Ça s'appelle La Mélodie Fantôme, The Haunting Melody. Ça se passe jusqu'au 14 février sur la scène du Nouveau Théâtre de Montreuil. Le travail du son est signé Dominique Bataille, il faut quand même le dire. Ouais. On a cité toute la troupe. Merci beaucoup, Mathieu Bauer, d'être passé par la télé du son.
Windy or sweet, rolling, falling green.
Wuthering Heights, Kate Bush, on ne dira pas pourquoi, on écoute ça. C'est la fin de l'atelier du son. Si vous êtes à Brest au festival Longueur d'onde ce week-end, nous y sommes aussi. On enregistre une émission demain, samedi à 19h au Petit Théâtre du Quartz. Une émission sur le thème voir et faire voir à la radio. Nous serons avec Jean Dève, qui s'est longtemps occupé d'émissions de peinture, peinture fraîche sur France Culture, mais aussi avec le peintre brestois Paul Bloas et avec l'ingénieur du son Pascal Rueff. Venez nombreux. Les compléments de l'émission de ce soir, le podcast, les commentaires, c'est sur franceculture.fr. L'atelier du son est préparé et coordonné par Inès De Bruyne et réalisé par Véronique Lamandour. Au son ce soir, il y avait Éric Boisset. Et dans un instant, vous retrouvez Aurélie Charron. Bonne suite de nuit à vous sur France Culture et à vendredi prochain.
Merci Thomas, belle suite de nuit à vous. Voilà ce que vous entendrez la semaine qui suit dans les ateliers de la nuit. Mardi soir, dans l'atelier fiction, c'est la radio sur un plateau. Un cycle de textes contemporains enregistrés en public à Théâtre Ouvert, à Paris. L'immobile de Stéphane Bonnard. Un homme, à la sortie de son bureau, s'arrête et ne repart pas. À la façon d'un moteur qui, même immobile, reste parcouru d'infimes mouvements, commence un soliloque où l'homme décrit ce qu'il voit, ce qu'il est, ce qu'il devient. Mercredi soir, une performance enregistrée en public à la Gaîté Lyrique, Emmanuel Gibello tourne autour de la notion du moi-peau de Didier Anzieux, sous la forme d'un rêve, d'une exploration de l'inconscient. Elle a inventé le MOLF, qui provoque, quand on fait tourner des toupies, un nouvel agencement des sons et des voix. Jeudi soir, une exploration du chantier de la Philharmonie de Paris, 28 000 m3 de silence par Soline Nivet et Angélique Thibault. Enfin vendredi soir, Thomas Baumgartner, dans son atelier du son, est au festival Longueur d'onde à Brest. Il évoque la façon dont on fait voir à la radio, avec notamment Jean Dève. Je vous dis à lundi pour l'atelier intérieur, nous serons en direct de 23h jusqu'à minuit. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez écouter, réécouter, podcaster les ateliers de la nuit. Tout est sur le site internet de France Culture. Il sera bientôt minuit, c'est l'heure des nuits.